Europe 1.
On va tout de suite se rendre sur place, retrouver notre envoyé spécial Thibaut Marcheteau. Thibaut Marcheteau, vous êtes au Vernet. Comment se passent les recherches désormais 48 heures après la découverte des ossements et du crâne du petit Émile?
Écoutez, vous l'avez entendu, Johan, lors de cette conférence de presse du procureur de la République d'Aix-en-Provence, les recherches, elles vont se poursuivre au moins demain et jusqu'à ce qu'il est nécessaire pour essayer de retrouver le maximum d'indices. Vous l'avez vu, ces recherches qui ont repris dimanche, dès que la gendarmerie nationale a eu la confirmation que ces os appartenaient bien à Émile, eh bien ces recherches ont repris de manière intensive avec une centaine de gendarmes mobilisés sur place et ces experts de l'IRCGN. Ils vont donc continuer leur enquête à la recherche donc d'ossements notamment. Ils ont retrouvé des vêtements, vous l'avez entendu lors de cette conférence de presse. L'enquête avance, il y a encore une recherche d'indices parce que le procureur de la République l'a dit. Pour l'instant, il n'est pas possible de trouver une raison au décès d'Émile, mais évidemment, ces analyses servent évidemment à quelque chose sur place, mais aussi à Pontoise, parce qu'à Pontoise, on a pu avoir des informations avec les os qui ont été rapportées samedi et qui ont été analysées au siège de l'IRCGN pour essayer de comprendre un petit peu les circonstances de la mort d'Émile et notamment la date de sa mort. Donc l'enquête va se poursuivre sur place pour essayer de récolter le maximum d'indices pour trouver toutes les réponses aux nombreuses questions qui se posent ici au Vernet.
Merci beaucoup Thibaut Marcheteau en direct du Auvernais pour CNews et Europe 1. Louis de Ragnel, il y a trois hypothèses, le procureur de la République l'a redit, trois hypothèses concernant la mort d'Émile.
Oui, il y a la chute accidentelle, l'homicide involontaire et puis enfin le meurtre. Et ce qu'on a compris, c'est que les trois hypothèses étaient encore réellement...
Elles se valent.
Et continuent d'être explorées. Et d'ailleurs, le cadre d'enquête ne change pas. Donc pour l'instant, en tout cas, tant que l'analyse des vêtements d'Émile...
Pour l'instant, il n'y a pas d'hypothèse privilégiée.
Eh bien, il n'y a pas d'hypothèse privilégiée, absolument.
Et ce qu'on a compris également, Sandra Buisson, c'est que d'ores et déjà, beaucoup d'actes avaient été amenés. Le procureur de la République a donné des chiffres précis.
Oui, il a expliqué que 1696 signalements qui ont été faits à la gendarmerie ont pu être traités, analysés, des portes ont pu être fermées sur tous ces signalements. 11 signalements sont encore en cours de traitement. Il y a eu 157 auditions. 1 million de pages de données numériques ont été analysées puisqu'il a fallu voir qui était dans le périmètre au moment de la disparition d'Émile, qui a borné. 1000 personnes ont été mises sous le feu des enquêteurs parce que leurs lignes téléphoniques ont pu borner à cet endroit ou à proximité. Et puis 500 prélèvements et scellés ont été analysés.
Vous avez donné beaucoup de chiffres, évidemment. Est-ce que si on compare ces chiffres à d'autres enquêtes, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce qu'on a fait beaucoup d'investigations pour cette affaire?
Beaucoup pour cette affaire, mais comme on en fait régulièrement.
C'est quelque chose de courant, ça n'est pas quelque chose d'atypique.
Pour l'affaire Maëlys, oui, il y avait eu des prélèvements et beaucoup d'analyses. On sait que les enquêteurs de l'IRCGN ont carrément désossé la voiture de Nordal-Lelandais pour retrouver une infime goutte de sang qui était dans son coffre sous d'autres éléments. Donc en fait, quand effectivement un dossier nécessite beaucoup d'investigations, effectivement, les gendarmeries comme les polices, les policiers sont en mesure de monter en capacité et de mettre à disposition de la justice tous les moyens.
Alors maintenant que nous avons toutes ces informations, Louis de Ragnel, qu'est-ce qui va se passer? Combien de temps est-ce que ça va prendre pour avoir les premiers résultats des investigations sur les vêtements notamment?
Alors normalement, enfin aujourd'hui ça va quand même relativement vite. Normalement ça met moins d'une semaine. Je pense que dans les prochains jours on aura les premiers résultats. Mais pour autant, faut pas se dire que l'enquête va s'arrêter. On va sans doute en reparler. Il y aura d'autres conférences de presse sans doute de la part du procureur de la République parce que je vous donne un exemple, tout ça est très hypothétique puisque par définition, je ne sais pas ce qu'a donné le résultat de l'analyse des vêtements, mais si on retrouve l'ADN de quelqu'un ou de plusieurs personnes sur les vêtements d'Émile, eh bien ces personnes soit vont être placées en garde à vue, soit vont être entendues immédiatement, soit la gendarmerie peut décider de les placer sur écoute et d'attendre X semaines, Y mois avant de les confronter, de leur poser des questions. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment, il n'y a que les enquêteurs qui peuvent répondre à cette question, et puis ça dépend dépend vraiment de ce qu'il trouve, de ce qu'il matérialise, de ce qu'il met en lumière.
Alors on va réécouter précisément le procureur de la République d'Aix-en-Provence qui s'exprimait à propos du fait le plus important qui était annoncé dans cette conférence de presse, à savoir les vêtements du petit garçon, une partie des vêtements en tout cas, retrouvés à 150 mètres de l'endroit où avait été retrouvé son crâne, les vêtements retrouvés dispersés à plusieurs dizaines de mètres l'un de l'autre. Regardez.
À proximité du lieu où le crâne a été découvert, un ruisseau descend la montagne. Le long de ce ruisseau, qu'on peut deviner par forte pluie devenir un torrent, ont été retrouvés par les enquêteurs hier, en contrebas du chemin, à environ 150 mètres du lieu de la découverte du crâne, certains vêtements que portait Émile le jour de sa disparition, c'est-à-dire un t-shirt, ses chaussures et une culotte, qui n'étaient pas rassemblées au même endroit, mais qui était éparpillé sur quelques dizaines de mètres. Sur
l'ADN. Alors, Sandra Buisson, encore une fois, on le redit, c'est extrêmement important parce que ces vêtements sont devenus, en quelque sorte, la principale pièce maintenant dans ce dossier et ils vont constituer, évidemment, la matière première pour les analyses qui sont en cours et pour la suite du dossier.
Effectivement, alors les ossements continuent à être investigués puisqu'il faut savoir si par exemple ils ont pu être ailleurs que à cet endroit ou dans ce périmètre bien matérialisé. Les vêtements, oui, on peut y trouver de l'ADN, on peut trouver des traces de terre qui ne sont pas originaires de cet endroit. Vous avez entendu le procureur, et c'est ce qu'on n'a pas relevé au tout début quand on a fait le bilan de cette conférence, il a expliqué que ce crâne était dans un chemin, sur un chemin, et que c'est en contrebas du chemin, près d'un ruisseau qui descend la montagne et qui peut devenir un torrent par forte pluie. Il laisse entendre qu'effectivement, le déplacement des effets du petit garçon ont pu être déplacés par les conditions météorologiques, et ce qui expliquerait peut-être aussi pourquoi le t-shirt, les chaussures, la culotte ont pu être éparpillées sur quelques dizaines de mètres. Bien sûr, ça n'est qu'une hypothèse. Rien n'est privilégié pour l'instant.
Le plus probable est quand même qu'on retrouve de l'ADN sur ces vêtements parce que ils ont été forcément touchés par des personnes avant la disparition du petit Émile. Donc, il risque d'y avoir des ADN multiples en réalité sur ces vêtements.
Oui, c'est possible et c'est pour ça que ça peut pas être la preuve ultime de ce qui est arrivé à cet enfant, effectivement. Donc il va falloir vraiment faire aller dans le détail et voir s'il y a des ADN aussi inconnus et puis s'il y a d'autres signes de ce qui a pu provoquer sa mort.
Tatiana Renard-Barzac.
Pour rebondir sur ce que disait Louis, et c'est vrai qu'une trace infime d'ADN, en effet, dans l'affaire Maëlys. Pourtant, Nordal Le Landais avait vraiment lessivé le coffre de sa voiture et c'est vraiment une toute petite trace de sang qui a permis de le confondre. L'affaire Grégory, il y a quelques jours, là, les parents ont obtenu 40 ans après la mort du petit Grégory de nouvelles séries d'analyses ADN sur l'anorak notamment et sur les cordelettes qui avaient entravé le corps de Grégory. Et donc, même 40 ans après, on peut peut-être avoir des informations. Donc, c'est vrai que c'est... On espère qu'on va pas attendre aussi longtemps, mais l'ADN peut vraiment révéler parfois des choses et on espère que pour les parents, pour les proches, il y aura une réponse à apporter aux circonstances de la mort de ce petit garçon, Émile.
On va réécouter à présent le procureur de la République d'Aix-en-Provence. Il évoque cette joggeuse qui a donc retrouvé le crâne d'Émile, qu'il a mis dans un sac plastique et ensuite qu'il a directement emmené à la gendarmerie. Il s'agit bien sûr d'une des zones d'ombre de cette affaire. Écoutez.
La promeneuse a découvert ses ossements entre 12h et 14h lors d'une promenade sur un chemin qu'elle se souvient avoir arpenté plus d'un mois avant. Perturbée par cette découverte, elle s'est saisie du crâne en prenant des précautions pour ne pas le souiller et l'a placé dans un sac en plastique. Elle est rentrée chez elle et a appelé la gendarmerie. Elle a pu indiquer avec une bonne précision aux enquêteurs l'endroit, le lieu où s'est trouvé les ossements, c'est-à-dire le crâne. Le crâne, parce qu'il s'agit bien d'un crâne, était sur le sol d'un chemin étroit, un chemin forestier, qui suit une courbe de niveau, de part et d'autre de laquelle le terrain présente une très forte déclivité. On devine donc aussi qu'il s'agit, en été, d'une zone très végétalisée.
Alors, c'est vrai, Louis de Ragnel, c'est difficile de porter un jugement naturellement sur cette joggeuse qui a agi, on l'imagine bien, sous le coup de l'émotion, mais il semble évident qu'il ne faut en principe pas toucher à une scène de crime ou à des ossements qu'on pourrait retrouver dans la nature, parce que là, ça vient souiller toute la zone de recherche. Ça complexifie évidemment l'enquête.
Ce qui est vrai, c'est que ça a suscité des questions. Et puis chacun essayant d'imaginer la scène. Vous vous promenez dans la forêt, vous allez dans un sentier, vous tombez sur un crâne, il y a peu de gens qui se disent naturellement « je vais prendre le crâne, je vais le mettre dans un sac, dans un coffre, je le ramène chez moi et ensuite je vais appeler les gendarmes pour leur dire que j'ai un crâne chez moi ». C'est vrai que tout ça... Bon. Mais après, dans les enquêtes, parfois, il y a des comportements un peu étranges qui ne veulent pas pour autant dire que la personne est coupable ou
naturellement
a une forme de culpabilité dans l'histoire. Donc voilà, faudra voir aussi quel est le profil de cette dame qu'on décrit comme une randonneuse. Et pourtant les gendarmes nous ont dit faites attention, faut pas trop la décrire comme une randonneuse. Bon, on va l'appeler une dame en tout cas. Et ce qu'on écoutait aussi dans la conférence de presse tout à l'heure le commandant de gendarmerie a expliqué que cette dame a voulu bien faire. Et donc, il n'aurait pas dit ça s'il y avait une suspicion particulière concernant cette dame. Donc voilà.
Bien sûr.
Il a précisé que sa bonne foi avait été vérifiée.
Vérifiée. Donc elle ne fait pas partie de la liste des suspects.
Parce que voilà, tout le monde est suspect par principe. Ouais. Non, mais c'est-à-dire que là, il n'y a aucune porte qui a été fermée. Et il y a fort à parier que cette personne aussi fait l'objet d'une surveillance. Je ne sais pas laquelle, mais.
Mais comme d'autres personnes dans ce dossier, par ailleurs.
Ce qui est normal dans un cadre d'enquête comme celui-ci.
L'enquête sur le terrain, Sandra Buisson, pendant encore 24 heures, c'est ça, les gendarmes sur le terrain vont tenter de chercher de nouveaux ossements dans la zone de recherche qui est très restreinte maintenant.
Oui, de nouveaux ossements, d'autres traces et indices. Cette enquête, elle mobilise là 6 personnes de l'IRCGN sur place.
Depuis dimanche, donc.
Un anthropologue, effectivement, un anthropologue qui, lui, peut examiner la végétation, le sol autour de l'endroit où ont été découverts les ossements. Il y a le coordinateur d'opérations criminalistiques, donc lui c'est celui qui vraiment qui dit à quel expert on peut faire appel, à quel endroit, à quel moment des investigations. Et puis il y a ces 5 chiens spécialisés dans la recherche de restes humains qui sont sur place, et on nous expliquait un peu plus tôt dans la journée de sources gendarmerie qu'ils sont capables de détecter des ossements qui sont enfouis jusqu'à 1 mètre dans le sol ou qui ont été présents et ne le sont plus.
Merci beaucoup Sandra Buisson du service police justice de CNews. Merci Louis Dragnel aussi. Vous restez avec nous. Je vous rappelle donc cette information qui est une information extrêmement importante. Donc le procureur de la République d'Aix en Provence qui affirme ce soir ne pas connaître les causes de la mort du petit Émile, et le procureur de la République qui nous apprend également que des vêtements de l'enfant ont été retrouvés à 150 mètres de l'endroit où a été découvert son crâne et que ces vêtements sont dispersés sur plusieurs dizaines de mètres. Nous suivrons évidemment sur CNews et sur Europe 1 les avancées de cette enquête dans les prochains jours.